Bonjour, bonjour à tous. Greta ou CETA, climat ou libre-échange, c'est la journée du grand écart pour les députés qui reçoivent ce midi la visite de la jeune militante pro-climat Greta Thunberg, quelques heures à peine avant de ratifier le traité de libre-échange avec le Canada qui fait débat sur les questions climatiques, justement. Grande lassitude et résignation des Vénézuéliens 6 mois après l'arrivée au pouvoir de Juan Guaido. Son rival ne lâche pas la présidence et l'opposition s'essouffle face à la faim, la précarité économique et les coupures d'électricité. L'actualité du jour, c'est aussi une rumeur et l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris à la recherche de celle qui avait prétendu que les eaux de la capitale étaient contaminées au tritium. La canicule qui s'étend, pique de chaleur dans le sud et pour avoir moins chaud, le système D pour les hommes et les vaches, vous l'entendrez. Et puis le Tour de France la joue aux gardoises aujourd'hui et au cinéma, c'est aux États-Unis chez un jeune immigré russe qu'on vous emmène.
Dans un quart d'heure, notre invité, qu'est-ce que le CETA va changer dans nos assiettes? On en parle avec la directrice de Foodwatch France, Karine Jacquemart.
France Inter.
La lutte contre le réchauffement climatique, c'est elle.
Ses longues tresses, sa bouille tout juste sortie de l'enfance et sa détermination qui force l'admiration de certains en agace d'autres. L'adolescente suédoise Greta Thunberg est ce midi à l'Assemblée nationale à l'invitation de 162 députés de tous bords. Celle qui est devenue l'égérie mondiale de la cause climatique participe à un débat sur la question le jour même où, hasard du calendrier, les députés doivent ratifier l'accord du CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, pas vraiment climato-compatible. Alors peut-on être pro-Greta et pro-CETA? Élément de réponse avec Thomas Schoner.
Il y a tous les camps dans la majorité. Le député de l'Eure, Bruno Ketel, fait partie des pro-CETA. Greta Thunberg, très peu pour lui.
La parole de cette jeune fille, aussi pertinente et juste soit-elle, elle ne peut nous contraindre. Aujourd'hui, ce traité, il est en préparation depuis plus de 10 ans. À défaut de celui-ci, ce serait un commerce sans règle aucune, avec le libre cours au profit et au seul profit.
Greta Thunberg, c'est l'écologie de symbole, dit une députée Modem sur la même ligne. Le symbole contre l'écologie et l'économie réelle, mais ça n'est pas incompatible. Selon Vincent Thiébaud, le député du Bas-Rhin qui pense qu'on peut être Greta et CETA.
Pour moi, la transition, qu'elle soit énergétique ou écologique, elle doit se faire dans le dialogue. C'est transformant à l'autre qu'on arrivera à élaborer des politiques communes ou autres. Le constat est qu'aujourd'hui, l'Europe, avec cet accord, a réussi à exporter ses exigences environnementales et sanitaires.
Martine Vonner n'est pas d'accord, la députée du Bas-Rhin, qui prévoit aujourd'hui de s'abstenir. Elle dit avoir entendu l'appel des jeunes et ce traité, selon elle, va dans le mauvais sens sur la question, par exemple, des circuits courts.
Pourquoi consommer de la viande élevée à l'autre bout de la planète alors que nos filières agricoles sont suffisantes?
La députée qui sera dans la salle pour écouter Greta Thunberg des pro-CETA n'exclut pas d'y aller. S'ils ont le temps.
Greta et CETA compatibles, est-ce possible? C'est aussi à retrouver sur franceinter.fr. Au Venezuela, une panne géante d'électricité affecte la capitale Caracas et la moitié du pays, avec des conséquences sur la distribution de l'eau, les transports publics, les lecteurs de cartes bancaires ou encore les liaisons téléphoniques pour plusieurs millions de personnes. Une panne due à une attaque électromagnétique, enfin si l'on en croit le gouvernement, car dans ce pays habitué désormais à être régulièrement plongé dans le noir du fait de la vétusté de sa principale centrale hydroélectrique, c'est plutôt la résignation qui l'emporte. Il faut dire que 6 mois après l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim, son rival Nicolas Maduro occupe toujours le pouvoir et les manifestations d'opposition s'essoufflent, victimes de la lutte quotidienne pour survivre, tout simplement. Reportage à Petare, le plus grand bidonville d'Amérique latine, de Benjamin Delisle.
Il est bientôt midi et comme tous ses voisins, Alexander est venu profiter d'un repas gratuit offert par l'association Petare pour le monde. Ici, personne ne mange à sa faim.
On survit grâce aux poubelles. Ici, les gens mangent dans les poubelles. On a beaucoup de problèmes d'électricité, on n'a pas d'eau. On vit presque à l'état sauvage.
Tous ici croyaient que Juan Guaido allait changer le pays. Mais 6 mois plus tard, plus aucun ne sort manifester. Didio Vergara fait partie du comité Aide et Liberté censé mobiliser les personnes des quartiers populaires. Même lui n'y croit plus vraiment.
On est tous très déçus parce qu'après les manifestations, il y a eu beaucoup de blessés et il ne s'est rien passé. Là, il y a un dialogue, mais on doute que ça aboutisse. Alors on ne sort plus, surtout avec les coupures d'électricité ou d'eau qui nous fatiguent.
Autre raison invoquée par Joël, un quadragénaire, la répression très violente dans la zone.
Les forces policières appliquent un terrorisme d'État dans ces communautés. Nous sommes terrorisés par ce qu'elles nous font vivre. C'est impossible de sortir parce qu'ils nous mettent un fusil sur la tempe, littéralement.
Même ceux qui rêvent de sortir exprimer leur colère sont donc condamnés à rester chez eux, désespérés. Reste l'option de quitter le pays, mais même ça, ils disent ne pas en avoir les moyens. Caracas. Benjamin Delisle, RFI pour France Inter.
C'est l'une des maladies qui tue le plus dans le monde et les résultats de deux études révélées aujourd'hui ne sont pour le moins pas rassurantes. En Asie du Sud-Est, la lutte contre le paludisme doit faire face à la résistance au traitement du parasite le plus courant de cette maladie. Et les chercheurs évoquent la perspective terrifiante, selon eux, de la propagation de ce parasite indestructible en Afrique où le paludisme fait toujours des ravages. Un secret de polichinelle que la désignation à venir de Boris Johnson comme nouveau Premier ministre britannique. Sa nomination doit être officialisée dans la journée, mais pour l'ancien maire de Londres, Tony Truant, quinquagénaire, pour qui cette installation au 10 Downing Street est un rêve vieux de 20 ans. Le moment, lui, est peut-être un peu moins rêvé, car deux très épineux dossiers l'attendent. Le Brexit, pour lequel il devra honorer sa promesse d'une sortie de l'Union européenne au 31 octobre, y compris le cas échéant sans accord. Et les relations diplomatiques pour le moins tendues avec l'Iran, qui détient toujours un navire citerne britannique et les membres de son équipage.
France Inter, 7h36, c'est le journal de Charlotte Piret. Charlotte, la rumeur s'était propagée à toute vitesse sur les réseaux sociaux.
Celle d'une contamination des eaux potables au tritium. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête sur cette fausse information diffusée à la suite d'un communiqué de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Communiqué qui faisait état de tritium dans l'eau de 268 communes, mais à des taux inférieurs à ceux fixés par les critères de qualité. A priori donc, pas de quoi s'affoler jusqu'à ce qu'une femme sème la panique sur Internet, Jean-Philippe Deniaud.
Je vous fais ce petit message pour vous dire de ne surtout pas boire l'eau du robinet. Cette femme anonyme qui se présente comme infirmière à l'hôpital Bichat à Paris affirme dans un court message audio posté à ses amis sur les réseaux sociaux qu'elle a eu connaissance d'un arrêté préfectoral indiquant que toute l'eau d'Île-de-France était contaminée, qu'il allait y avoir un afflux de patients et que la population ne serait pas prévenue. Donc, ne la buvez pas, conclut-elle. Le message se propage à grande vitesse et il incite même les autorités a publié un démenti formel. Qui est cette femme? A-t-elle cherché à déclencher un vent de panique? A-t-elle inventé cet arrêté préfectoral à dessein? Ou bien a-t-elle sincèrement paniqué elle-même? Le parquet ouvre donc une enquête avec cet article rarement utilisé du code pénal, l'article 27.2 de la loi sur la liberté de la presse. La diffusion d'une fausse nouvelle susceptible de troubler la paix publique est passible d'une amende de 45 000 euros.
Certains n'y voient qu'un autocontrôle de façade, mais François de Rugy pourrait bien s'appuyer sur les deux enquêtes institutionnelles rendues publiques aujourd'hui pour redorer son blason une semaine après sa démission du gouvernement. Car si l'on en croit les premiers éléments qui ont déjà fuité dans la presse, les fastueux dîners organisés alors qu'il présidait l'Assemblée nationale étaient tous d'ordre professionnel et les 63 000 euros de travaux réalisés dans son appartement de fonction du ministère de l'écologie justifiés par la vétusté des lieux.
À partir d'aujourd'hui, le thermomètre va véritablement rouge.
Température au-delà de 40 degrés à Agen, Limoges, Auch, Nantes, Clermont-Ferrand ou encore Toulouse. 59 départements en vigilance orange à la canicule. La chaleur subie par tous, les hommes comme les bêtes. Et il n'y a pas de limite à l'inventivité pour trouver les astuces qui rafraîchissent. Glace à la viande donnée aux fauves dans les eaux ou encore brumisateur pour vaches. Un dispositif testé et approuvé par la cinquantaine de vaches laitières d'un agriculteur isérois et par Damien Triomphe. Reportage.
Ça peut paraître loufoque, ça ne l'est pas. Ce sont plus de 4000 euros d'investissement, mais pas de regret pour Gérald Badin.
Depuis qu'on a installé ça, c'est le jour et la nuit. On ne reconnaît plus les vaches. Les vaches ne veulent même plus sortir de la salle de traite, tellement qu'elles sont bien.
Il a fait installer les brumisateurs après la canicule du mois de juin, un jour de gros coup de chaud.
Le soir, quand on les a rentrées pour les traire, donc, elles se sont levées. Il y en a qui, 10 mètres plus loin, se sont recouchées à tirer la langue, à souffler vraiment fort. Une vache peut même en mourir. Hein. Enfin, c'est comme un être humain. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma femme, allez hop, il faut qu'on fasse quelque chose.
Donc des brumisateurs en salle de traite et dans les tables au-dessus de la mangeoire.
Donc on a une pompe qui est au niveau du local de salle de traite.
Toutes les 45 secondes, 50 secondes de brume.
Il y a une temporisation qu'on règle.
Et elles sont là, silencieuses, sous la brume, bien au frais.
Ah, c'est l'eau du puits, oui. J'ai un forage à 45 mètres. Si, on se met dessous, on est bien. Hein.
Et l'autre avantage, c'est que ça chasse les mouches.
Notamment en salle de traite, quand il y a des mouches, elles piquent les vaches, donc elles tapent, elles débranchent la griffe, ça énerve un peu tout le monde.
Les vaches, lui, tout le monde y gagne, même financièrement. Au mois de juin, avec la canicule, ces vaches avaient donné 200 litres de lait de moins.
La canicule qui peut aussi être à l'origine de noyades. 40 personnes sont mortes lors du premier pic de chaleur du mois de juin. La ministre des Sports appelle donc à la vigilance, en particulier pour les enfants. Le nombre de noyades d'enfants de moins de 6 ans a doublé depuis 2015. Et puis, qui dit canicule dit risque de pollution. La circulation différenciée est mise en place aujourd'hui à Paris et Lyon notamment. Dans l'agglomération parisienne, seules les voitures aux vignettes inférieures à 3 sont autorisées. Pas de restriction de circulation pour les coureurs du Tour de France en revanche, mais une étape sous le soleil du Gard et la chaleur. Le français Thibaut Pinot n'aime pas vraiment ça.
Ça c'est sûr, ce n'est pas être mes conditions préférées, mais ça sera les conditions de personne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui aiment courir sous 40 degrés. Et voilà, après quand je suis en forme, je sais très bien que c'est des... je passe tout type de temps, que ce soit la chaleur ou le froid. Voilà, quand on est en forme, quand on est au top, les chaleurs ça passe. Mais voilà, j'ai pas envie de m'enflammer parce que je sais très bien qu'un jour ou l'autre, tout peut arriver. Et ça m'est déjà tellement arrivé plusieurs fois que j'ai pas envie de rêver non plus.
Thibaut Pinot au micro de Fanny Lechevestrier, départ de cette 16e étape à 13h30 à Nîmes pour une arrivée à Nîmes toujours après 177 km de course. Tout de même, un titre de champion du monde pour les Français à l'épée par équipe. Les escrimeurs tricolores ont battu les Ukrainiens en finale à Budapest. Une victoire à savourer d'autant plus qu'elle met fin à de longs mois de mauvais résultats.
Et puis, en ces temps de chaleur, rien de tel qu'un bon film dans une salle climatisée.
France Inter vous suggère même le programme Give Me Liberty de Kirill Mikhanovsky, une véritable pépite, si l'on en croit Eva Bétan.
Steve, do you like Tyson? You like boxing? You're boxing, yes?
Il n'y a personne de connu au générique. Les héros sont des vieillards russes ne parlant quasiment pas anglais et des personnes handicapées à Milwaukee, peu riante cité. L'essentiel du film se passe dans un minibus et c'est drôle, émouvant et formidable. C'est un film d'immigrant, dans sa genèse et dans son âme. Le réalisateur est arrivé aux États-Unis à 17 ans, venant de l'ex-URSS après la chute du mur. Il a commencé par gagner sa vie en transportant des personnes handicapées, d'où son personnage de chauffeur, sorte de DiCaprio jeune saint laïque au bord de la crise de nerfs. Par un concours de circonstances, en plus d'une afro-américaine en chaise roulante irascible, le chauffeur se retrouve encombré de vieux immigrants russes avec leur accordéon et leur mémoire qui flanche, devant aller à des funérailles, alors qu'en même temps, des émeutes perturbent le voyage. Film d'action plus que de démonstration, mais tout passe. C'est l'Amérique des personnes fragilisées et c'est aussi la compassion, la solidarité que célèbre le cinéaste sans prêcher préchat et à fond la caisse.
Give Me Liberty de Kirill Mikhanovsky en salle dès demain.
Merci Charlotte Piret, c'était le journal sur France Inter.